Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Bloomin' You, le podcast qui vous propose toutes les connaissances utiles à une vie bonne et heureuse. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, de vous aider à mieux vous connaître et surtout de vous faire du bien. Notre parti pris est de partager avec vous des savoirs ayant un impact positif sur l'homme et le vivant. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, nous accueillons la première femme imam en France, Kaïna Bahloul, à la suite de la parution de son livre « Mon islam, ma liberté » aux éditions Albin Michel. Dans ce podcast, la fondatrice de la mosquée Fatima nous donne sa vision d'un islam humaniste, enfin affranchi des peurs et des scléroses. Alors, bonjour Kaïna.
Bonjour Amel.
Kaïna Bahloul, vous êtes la première femme imam de France.
Oui.
Vous êtes née en 1979 à Paris, mais vous avez grandi à Béjaïa en Kabylie. Mm-hmm. Votre père est un Algérien kabyle, votre mère est française d'origine juive par sa mère et catholique par son père.
Tout à fait.
Dans votre livre « Mon islam, ma liberté » aux éditions Albin Michel, vous donnez la genèse de l'islamisme radical et des clés de compréhension des valeurs inclusives de l'islam grâce à la mystique soufie.
Tout à fait.
Vous y célébrez également la figure de la femme musulmane, notamment à travers de la résistance, l'histoire de la résistante Lala Fatmane Soumer, qui en 1849 a repoussé les premiers colons français avant d'être capturée et de mourir à l'âge de 33 ans. À travers l'histoire de celle à qui vous devez votre prénom, la reine prêtresse berbère Kaïna, vous parlez de vos origines et du brassage culturel dont nous sommes tous issus.
Tout à fait.
Selon la légende, la reine Kaïna, née juive, puis convertie au christianisme, aurait préféré se suicider plutôt que de se rendre à l'ennemi tout en conseillant à ses fils de se convertir à l'islam pour perpétrer la tribu. Vous utilisez aussi cette histoire pour dire votre admiration pour l'avocate militante féministe Gisèle Halimi, qui a aussi écrit sur elle.
Tout à fait.
Alors, avant de vous laisser la parole, Kaïna, oui, je me permets, pour nos auditeurs, un petit extrait de votre livre.
Oui.
Alors, vous dites dans votre livre, depuis plusieurs décennies, l'islam occupe une grande part de la scène médiatique occidentale, et lorsque celle-ci s'y intéresse, c'est dans la majorité des cas pour en parler comme d'une religion instrumentalisée par des idéologies politiques fondamentalistes et violentes, et jeter l'opprobre sur les fondements même de celle-ci pour en faire une religion belliqueuse apportée par un prophète aux allures d'homme politique guerrier. Or, vous dites, l'islam dans sa réalité est d'abord une spiritualité, une sagesse qui alimente la foi de milliers de personnes dans le monde à la recherche d'une seule chose, trouver la paix en eux-mêmes et la voir advenir dans le monde. Alors, ma première question, Kaïna, est la suivante. N'y a-t-il pas une méconnaissance de l'islam par les musulmans eux-mêmes ?
Oh oui, 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 oui. Je ne peux que dire oui. Et un grand oui, malheureusement, à mon grand regret. Et c'est ce qui m'a poussée aussi à écrire ce livre. Parce qu'aujourd'hui, on entend tout et son contraire sur l'islam, que ce soit de la bouche des non-musulmans, ce qui, à la limite, peut se comprendre. Ce n'est pas leur religion, pas leur foi, pas leur tradition, mais aussi de la part d'une grande majorité de musulmans, malheureusement. Et je l'ai vécu et vu au plus près, j'en ai fait l'expérience en Algérie même, un pays musulman. Et le grand problème là-dedans, bien évidemment, c'est un problème très complexe. Il est lié aussi à toute une histoire de ces pays-là, des pays musulmans, mais aussi, peut-être brièvement, au fait que souvent l'enseignement religieux qui est donné dans ces pays-là est un enseignement complètement orienté dès le départ, choisi par des états politiques, par des pouvoirs politiques, donc qui amputent tout un pan de la pensée, toute la richesse de la pensée musulmane, malheureusement, n'en donne finalement qu'une petite, toute petite part qui est très très réduite, malheureusement.
Alors, quelle est la part qui, selon vous, aujourd'hui, devrait être complètement proscrite de ce qu'on dit de l'islam, aujourd'hui ?
Vous savez, on entend beaucoup de poncifs concernant l'islam. L'islam comme étant, on décrit l'islam souvent comme étant une religion violente, c'est la première chose à laquelle on pense, une religion misogyne qui ne donne pas sa place à la femme. L'islam dans sa diversité, il n'est pas ça. Bien sûr, je ne nie pas du tout le fait qu'il y a des lectures misogynes, Et d'ailleurs, comme toutes les autres religions, comme toutes les autres traditions religieuses, enfin, comme tout le monde le sait, le patriarcat, le système patriarcal n'est pas musulman, n'est pas exclusivement musulman. Le patriarcat a sévi partout, partout dans le monde et dans l'humanité. Alors c'est vrai que ce qui se passe dans l'islam aujourd'hui, malheureusement, c'est que la pensée musulmane ne s'est pas beaucoup renouvelée, en tout cas auprès de certains courants qui ont tendance à vouloir garder par un certain, en faisant du zèle, en voulant absolument protéger cet islam, cette citadelle de l'islam qu'ils sentent peut-être, parce qu'ils la sentent peut-être un peu fragilisée, attaquée. Et du coup, il y a ce repli qui fait qu'on reste coincé dans une pensée médiévale, une pensée complètement archaïque. Or, l'islam ne se réduit pas à cette pensée médiévale. L'islam est beaucoup plus riche que ça. C'est une pensée qui s'est développée durant plus de 14 siècles et qui a eu ses moments de gloire, qui a énormément apporté à l'histoire de l'humanité dans tous les domaines, domaines artistiques, scientifiques, religieux, spirituels. Et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, il y a un énorme besoin, une nécessité de faire redécouvrir tout ça.
À quel moment s'est faite la bascule entre, effectivement, cette, on va dire, le moment où l'islam était la religion spirituelle par excellence et profondément intime, et le moment où c'est devenu belliqueux. Quel est le moment où on a commencé à comparer le djihad, que moi je sais comme une lutte intérieure en fait, comme quelque chose qui est belliqueux, où on doit aller avec l'épée tuer celui qui n'est pas musulman? À quel moment s'est faite cette bascule? À quel moment on a commencé à mésinterpréter
Eh bien, j'en parle, hein, je parle dans mon livre de ce moment charnière où il y a eu une récupération et un basculement de ce qu'on appelle le mouvement Islah, le mouvement réformiste musulman, qui au départ était un véritable mouvement réformiste dans son sens positif et noble, c'est-à-dire interpréter. Il y avait une volonté de la part de ces intellectuels musulmans comme Mohamed Abdou, par exemple, d'interpréter les textes en prenant en compte toutes les situations qui étaient inédites jusque-là à la pensée médiévale, donc, et prendre en compte le contexte moderne et lire les textes et les interpréter à travers donc, ce regard du musulman qui vit dans son époque. Donc ça, c'était voilà, les premiers penseurs du courant réformiste. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu d'autres penseurs que j'appelle dans mon livre les penseurs revivalistes, qui en réalité n'ont rien à voir avec ces premiers penseurs réformistes, parce qu'ils ont complètement dévoyé ce courant réformiste par leurs idées, leurs pensées, qui sont en réalité des pensées qui veulent un retour vers un passé complètement mythifié, alors qu'on ne connaît pas grand-chose de ce passé, justement, du 7e siècle. On n'a pas grand-chose, en réalité, dans les écrits. Les premiers écrits de la tradition musulmane datent du 2e siècle de l'Égypte. Donc voilà, il y a une mythification un peu de ce modèle des pieux prédécesseurs, des premiers musulmans. C'est un mythe qu'ils se sont complètement construits et donc ils n'ont eu de cesse d'appeler à ce retour vers ce passé mythifié, tout en étant dans le rejet de tout ce qui est de l'altérité, qu'elle soit altérité religieuse, occidentale, féminine ou... voilà, et donc c'était vraiment dans une lecture exclusive et de repli sur soi.
Alors, votre livre est féministe, mais vous dites que le féminisme est un humanisme, donc je dirais d'abord qu'il est d'abord humaniste, profondément humaniste. Vous consacrez tout un chapitre sur le voile.
Oui.
Quelle est votre position sur le voile? Est-ce une obligation, une tradition ou une incompréhension des textes?
Je crois qu'il y a une grande part d'incompréhension des textes. C'est aussi souvent, il est souvent porté par tradition, par beaucoup de femmes. Dans toute cette confusion, en fait, évidemment, les mouvements, les courants fondamentalistes, ils ont utilisé les arguments qui confortaient leur position dans leur volonté de contrôler le corps de la femme, de le rendre invisible dans l'espace public. Alors que lorsqu'on revient au texte, à une lecture théologique des textes fondateurs, le Coran en premier, il n'y a absolument rien qui oblige la femme à porter le voile, et ça, je l'explique vraiment à travers un argumentaire appuyé dans mon livre.
Alors, qu'est-ce qui est dit là-dessus, en fait? Comment c'est venu, ça? Comment on a pu travestir à ce point le texte? Enfin, alors que dans votre livre, effectivement, c'est très argumenté. Vous dites qu'en gros, le voile n'a jamais... ça n'a jamais existé. Qu'on a parlé peut-être de se couvrir la poitrine, le creux de la poitrine... Enfin, de se couvrir la poitrine, parce qu'avant, les femmes ne se couvraient pas. Elles pouvaient être... seins nus.
Non, c'est pas ça. Non, justement, en fait, il y a une confusion sur cette question-là.
D'accord.
Certains disent que les femmes, soi-disant que les femmes étaient seins nus. Non, elles ne savaient pas qu'elles étaient seins nus. Elles portaient un vêtement, mais souvent, elles avaient un décolleté, le décolleté qui était un peu ouvert. Et donc, comme les musulmans à cette époque-là vivaient des conflits permanents avec leurs voisins non musulmans, et que souvent, les femmes musulmanes étaient attaquées, et donc, il y a eu ce verset coranique qui conseille aux femmes musulmanes de rabattre un bout de tissu, donc ça peut être un châle, sur leur poitrine. Le terme coranique qui est utilisé, c'est vraiment l'échancrure de leur décolleté. Mais il y a eu toute une extrapolation de ces lectures-là pour dire que non, il ne s'agit pas seulement de se décolleter, mais il faut absolument se couvrir toute la tête, les cheveux et tout ça. Et parfois, on se retrouve même carrément devant des lectures complètement farfelues qui partent du principe que le mot « khimar » qui est utilisé dans le texte coranique viendrait du mot « khamr » qui veut dire le vin, et qu'à partir du moment où on parle de vin, donc le vin altère les capacités cognitives donc qui sont dans la tête, le cerveau, eh bien, il faut se couvrir la tête ou le cerveau. C'est complètement farfelu, c'est incroyable d'en arriver, de pousser, mais vraiment à l'extrême, ces raisonnements, et pour dire, obliger les femmes, et puis surtout leur faire porter cette culpabilité, que si elles veulent être de bonnes musulmanes, de vraies musulmanes, il faut qu'elles se couvrent la tête. Je trouve ça complètement inadmissible.
Alors, vous insistez sur l'unicité aussi,
oui,
dans votre livre. Ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Quelle est votre position sur la mixité des couples, d'une manière générale, dans l'islam? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible dans l'islam? Parce que c'est vrai que beaucoup de musulmans grandissent avec l'idée que, en tant que femme, tu ne peux pas te marier avec quelqu'un d'une autre religion. L'homme le peut, mais la femme ne le peut pas. Quelle est votre position? Est-ce possible? Et avec quelle éducation pour les enfants issus de cette mixité?
Alors, encore une fois, c'est une question d'interprétation et de lecture, parce qu'il n'y a absolument rien qui interdise aux femmes dans les textes de se marier avec des non-musulmans. Encore une fois, c'est une évolution interprétative et anthropologique du vécu et de la pratique religieuse musulmane. Pour moi, il n'y a absolument aucun problème pour qu'une femme musulmane se marie avec un non-musulman. D'ailleurs, dans notre mosquée, nous célébrons les mariages mixtes. Et je trouve au contraire que c'est vraiment une source de richesse et de rapprochement entre des religions différentes. Et moi, je les trouve magnifiques, ces couples mixtes qui se marient. Et on voit l'amour qui unit. Et je crois que c'est vraiment l'amour qui sera notre porte, de notre issue et notre espoir. Et l'enseignement qui doit être donné aux enfants dans ces couples mixtes, je crois que c'est vraiment cette idée justement d'unicité sur laquelle sont fondés les trois monothéismes, et puis d'autres traditions spirituelles aussi, parce qu'il faut savoir que le taoïsme, le bouddhisme aussi nous parlent beaucoup d'unicité, et cette unicité dont ils parlent n'est pas complètement étrangère à l'idée de l'unicité telle qu'on la trouve dans la mystique musulmane. Donc, ce qui me conduit à dire que la sagesse humaine, finalement, à toutes les époques, dans toutes les sociétés, partout sur Terre, finalement, a eu quelque chose de qui converge. La vérité, à un moment donné, quand on va loin dans la sagesse, plus on s'élève dans la sagesse, plus on va vers plus on converge dans, voilà, dans nos opinions. Et je crois que l'idée donc spirituelle, l'idée de l'unicité d'un point de vue spirituel, à mon sens, est vraiment la première valeur à transmettre aux enfants, dans le sens où l'unité, c'est ce qui rapproche les humains.
Alors, dans votre livre, vous consacrez aussi tout un chapitre à la place du fou, du fou sage dans l'islam, comme Nasreddin, qui est l'un des personnages les plus connus du monde arabo-musulman, et qui, je vous cite, ont pratiqué la satire et le second degré au service de la sagesse pour tenter de corriger les vices et les travers du pouvoir politique et de la société.
Ouais.
Alors, qu'en est-il de l'humour dans l'islam? Peut-on rire de tout?
Oui, écoutez, alors moi j'ai été surprise, je dois le dire. Vous savez, je prépare une thèse à l'École pratique des hautes études à Paris et j'ai une collègue qui prépare une thèse sur l'humour de Dieu dans la tradition musulmane. Alors, nous, quand on parle de l'islam orthodoxe, on a l'impression qu'il faut être tout le temps sévère, triste, en colère, voilà. Eh bien non. Dans la tradition, justement, quand on a une démarche de recherche où on retourne vraiment au texte, eh bien on trouve des choses absolument extraordinaires et on trouve des textes où Dieu rit, où le prophète lui-même rit. Et voilà, je crois que le sourire, le rire et quelquefois la légèreté, apporter un petit peu de légèreté à nos vies qui parfois peuvent être... difficile, dur. On le vit en ce moment avec le contexte de l'épidémie, de la crise sanitaire. Eh bien, le rire fait partie de notre humanité. Il faut le cultiver.
Oui, d'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs, lecteurs, à lire les contes, par exemple, de Nasreddin ou de...
Oui, de Jaha, on l'appelle. Enfin, en Algérie, on appelle ça Jaha. Mais c'est vrai que Jaha, il est très connu dans tout le bassin méditerranéen. Alors, les Turcs l'appellent Nasreddin Hoja. Au Maroc et en Algérie, on dit Jaha ou Joha ou Goha chez les Égyptiens, par exemple, parce qu'ils prononcent le Ja en disant Ga, Goha. Et oui, c'est un personnage absolument extraordinaire. Et en réalité, c'est un personnage qui est utilisé dans la tradition soufie pour faire passer tout un tas de sagesse de cette tradition.
Tout à fait, il est même utilisé par les Indiens, il a traversé le monde entier.
Ah, oui, il est absolument
c'est un personnage mondialement connu, Nasreddin.
Moi, j'ai grandi avec les histoires de Joha.
Ouais. Ben, moi, je les raconte à mes enfants aussi, ils sont morts de rire à chaque fois.
Mais oui,
et c'est vrai qu'il y a une vivacité d'esprit et un humour.
Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une vivacité et un humour qui nous délivre comme ça des pépites. Parfois, on ne s'y attend pas, on est surpris, mais qui nous interpellent et nous font réfléchir.
Et qui montrent à quel point, en fait, entre guillemets, cette conscience bienveillante qu'on appelle Dieu, ou l'univers, et ne se prend pas au sérieux.
Oui. Ouais.
En fait. C'est ce que je ressens, en tout cas, de ces contes. Vous êtes aujourd'hui, Kaïna, vous intervenez, vous avez créé votre propre temple, mosquée, qui se trouve où?
Alors, il se trouve à Paris, mais il est domicilié à Paris, mais notre plus grand problème aujourd'hui, c'est que nous avons énormément de mal à avoir un lieu fixe. Nous n'avons pas de lieu fixe permanent, c'est-à-dire que nous louons une salle pour nos offices du vendredi. Et puis depuis la crise sanitaire, de toute façon, nous faisons tous nos offices en ligne. Donc nous sommes toujours à la recherche d'un local à Paris. J'en profite d'ailleurs
bien
pour
sûr.
Lancer un appel et demander aux gens qui veulent bien nous aider, s'il y a un local qu'ils peuvent prêter les vendredis, eh bien ça nous aiderait beaucoup.
Aujourd'hui, comment vous êtes organisé pour assurer le fonctionnement jusqu'à présent? Donc, je comprends qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir un lieu fixe pour pouvoir donner des rendez-vous réguliers
à votre communauté, aux fidèles.
Comment on peut autrement aussi vous aider si on ne peut pas vous offrir une salle? Est-ce que vous avez comment
des dons,
vous aider
on peut des faire dons des dons aussi. Alors, c'est ce qui nous a permis de vivre, de commencer à vivre. Nous avons créé sur la plateforme Hello Asso.
D'accord.
Une campagne de crowdfunding, d'ailleurs, qui est toujours en ligne. C'est ce qui nous a permis de collecter un petit peu d'argent pour louer donc les salles, des salles le vendredi. Donc vous pouvez faire un don sur cette campagne de crowdfunding en ligne.
Dont vous trouverez le lien sur la retranscription de cette interview. Kaina, pourquoi avoir écrit ce livre aujourd'hui ?
Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il y a un grand besoin de parler de l'islam autrement que le décrire, mettre des mots autres que ceux qu'on entend dans les médias mainstream, loin de toutes ces polémiques, ces clivages, et puis offrir aux jeunes musulmans, c'est peut-être prétentieux de ma part, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai envie de contribuer à éveiller un peu les jeunes musulmans, à leur dire, écoutez, enfin, il y a une tradition tellement riche, une pensée tellement extraordinaire, d'une richesse incroyable, d'une profondeur spirituelle incroyable qui est complètement méconnue. Alors soit malheureusement elle a été complètement dévoyée et récupérée par des courants intégristes et fondamentalistes qui aujourd'hui font qu'on se retrouve devant un islam complètement normatif, hyper normatif, avec une inflation du ritualisme et qui oublie complètement la spiritualité qui est le fondement même de la religion musulmane. Ou alors, d'un autre côté, nous avons les anti-musulmans, les islamophobes qui traitent l'islam de tous les noms. Et j'ai voulu par ce livre, en fait, donner autre chose. D'abord par un témoignage, mais ce livre ne se limite pas à un témoignage parce que je ne voulais pas que être le personnage ou la personne, enfin, que je ne voulais pas que ma vie, mon récit de vie soit central dans ce livre. Je parle de certaines expériences, mais juste pour éclairer mon propos et donner vraiment de la matière pour réfléchir, donner de véritables connaissances historiques et aussi doctrinales sur l'islam pour que les musulmans puissent découvrir vraiment leur tradition et leur religion.
Comment a été reçu, s'il a déjà été partagé, votre livre par la communauté, les instances religieuses qui représentent aujourd'hui l'islam de France ?
Alors, écoutez, je vous donnerai un rendez-vous pour après sa publication, parce qu'il est publié le 1er avril. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop. Mais il a le mérite d'exister et surtout d'être une voix féminine de l'islam. Parce que jusque-là, l'islam est plutôt porté par des voix masculines. Et ce livre se veut être une voix féminine de l'islam.
Eh bien écoutez Kaina, un grand merci pour votre livre. À titre personnel, je suis moi-même issue d'une famille de confession musulmane et j'ai trouvé dans votre livre le message spirituel d'ouverture, d'amour, de dignité et de paix transmis par ma famille, par mon père. Un grand merci pour votre livre et votre partage riche et rafraîchissant que je suis heureuse de relayer aujourd'hui sur bloomingyou.fr. Le monde en a besoin, merci beaucoup à vous, merci Kaina.
Merci, voilà. Merci beaucoup à vous et je suis ravie de cet accueil et j'espère que beaucoup de jeunes musulmans le liront et j'espère qu'il enrichira leur regard et leur connaissance de l'islam.
Merci beaucoup Kaina, je rappelle le titre de votre livre « Mon islam, ma liberté » aux éditions Albin Michel.
Merci.
Merci. Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Je vous rappelle le titre du livre de Kaina Bahloul, « Mon islam, ma liberté » aux éditions Albin Michel. Je vous donne rendez-vous sur bloomingyou.fr où vous trouverez la retranscription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.